Écoute. Écoute.
Bonjour, mon invité aujourd'hui est François Tuillier, qui vient de publier aux éditions Le Temps Présent, La Révolution Antiterroriste. François Tuillier, vous avez un parcours dans le renseignement, vous travaillez sur les questions de terrorisme depuis une trentaine d'années, et j'ai un peu le sentiment que je pourrais dire à la lecture de votre livre que vous inscrivez un peu à contre-courant de l'esprit dominant dans le débat public sur le terrorisme.
Alors, j'ignore si je m'inscris à l'inverse du courant dominant. J'ignore même s'il y a un courant dominant dans la mesure où en France, il n'y a pas réellement de débat sur la politique antiterroriste suivie. Je remarque que cette politique antiterroriste a changé ces dernières années, mais elle ne l'a pas fait dans le cadre d'un débat démocratique. Je dirais même en dehors de tout débat partisan. Donc tout ça se fait, je dirais, de manière empirique. S'il y avait un débat démocratique qui opposait différentes thèses en présence, on pourrait dire ça, mais malheureusement, ça n'est pas le cas.
Alors vous, à travers ce livre, je cite une de vos phrases, vous voulez opposer au bruit des attentats le silence monacal de la connaissance.
Oui. En effet, je trouve qu'il y a beaucoup de bruit autour du terrorisme, et le terrorisme s'en nourrit malheureusement, et que plus on en parle, plus on est affaibli. Tout ça fait beaucoup de vacarme, et évidemment, ce que Marx appelait les bénéficiaires secondaires du crime terroriste s'en repaissent et ils font leur miel de tout ça. Je crois qu'effectivement, manque de connaissances et qu'il y a une bataille à mener sur l'intelligence autour du terrorisme, qui elle-même n'est pas encore menée et sur laquelle on a perdu beaucoup de terrain déjà.
Vous expliquez qu'il y a trois forces spécifiques qui expliquent la façon dont on regarde le terrorisme. Le premier, c'est la fascination pour la violence de l'Occident. Le second, c'est l'information business. Et la troisième, c'est finalement le fait que le pouvoir politique se sent affaibli et voit dans la lutte contre le terrorisme un moyen de se relégitimer. Peut-être peut-on prendre ces trois facteurs les uns après les autres. L'Occident vous paraît fasciné par la violence?
Il est d'autant plus fasciné par la violence que la violence l'a quitté depuis, enfin en tout cas en partie, depuis le XIIIe siècle, et qu'on s'aperçoit que, en tout cas si on consulte les données sur, par exemple, le taux de crime et d'atteinte aux personnes pour 1000 habitants, on a une baisse spectaculaire depuis le XIIIe siècle. Donc on vit dans un Occident qui s'est globalement pacifié, et qui, de ce fait, regarde désormais la violence comme un peu son alter ego, son ombre, et est fasciné par cette violence du terrorisme qui lui revient aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les médias, ce que j'appelle l'information business, évidemment la libéralisation des différents médias aujourd'hui, a montré que la violence était pourvoyeuse d'audience pour les principaux médias, et que, de ce fait, elle est une source de revenus importante pour les médias, notamment les médias audiovisuels. Et la troisième chose, oui, je crois que le pouvoir, notamment les gouvernements néolibéraux occidentaux actuels, cèdent plus ou moins difficilement à cette tentation d'utiliser la menace terroriste pour asseoir leur pouvoir, pour créer de la cohésion au sein de leur population, et que c'est une tentation facile à laquelle un certain nombre de gouvernements dits occidentaux peuvent avoir tendance à céder en ce moment.
Donc il y aurait une sorte de cercle vicieux, le public est fasciné par la violence et les médias lui en servent pour attirer son attention, et du coup la digue des pouvoirs politiques qui normalement devraient donner un cap sur le long terme sont eux-mêmes. Donc si je vous suis bien, les médias suivent le public et les politiques suivent les médias.
Voilà, tout le monde suit, et ce qui obère un petit peu les capacités de réflexion sur le sujet. Ces trois forces dont je parle dans mon livre sont extrêmement puissantes et emportent tout débat démocratique sur la question. On s'aperçoit que notre politique antiterroriste a changé depuis un certain nombre d'années, et ce, en suivant ces vecteurs qui sont d'une puissance inégalée aujourd'hui.
Vous parlez d'un modèle latin qui aurait été abandonné au profit d'un modèle anglo-saxon. Pouvez-vous préciser quels sont les contours de ces deux modèles?
Il est clair qu'on a eu une radicalisation qu'on peut à la limite porter en regard de la radicalisation dite islamiste aujourd'hui, une radicalisation de notre politique antiterroriste qu'on peut décliner depuis à peu près une vingtaine d'années. Mais il y a eu un grand changement dans les années 2007-2008, surtout 2008, et ça je l'explique dans mon livre, dans la mesure où la principale force, le principal vecteur de changement de notre politique antiterroriste aura été sans doute les attentats de Londres en 2005, en 2005, et le fait que à ce moment-là, la présidence du Conseil de l'Union européenne était assurée au même moment par le Royaume-Uni, que le Royaume-Uni a exercé son influence via Bruxelles pour, en quelque sorte, imposer un modèle de lutte contre le terrorisme qui était le sien, qui était pensé pour le Royaume-Uni, hein, qui était pensé pour un pays de tradition communautaire et de religion d'État, c'est-à-dire tout l'inverse de notre modèle républicain, que j'appelle le modèle latin dans mon livre, et que depuis, on essaye de suivre un petit peu ce modèle-là, je dirais presque à front renversé. C'est un modèle contre nature pour nous, qui conduit
en quoi est-il contre nature et quels sont les éléments distinctifs de ces deux modèles?
Je prendrai un exemple, la lutte contre la radicalisation. La lutte contre la radicalisation qui est hérité de ce modèle-là, mais qui contrevient à notre principe laïque, par exemple, il n'est pas possible pour nous de lutter, par exemple, contre les dévoiements d'une religion, pour reprendre les termes du président Macron à la préfecture de police. Ça n'est pas à l'État de lutter contre les dévoiements d'une religion. L'État est là pour lutter contre un crime. On a déporté la police républicaine d'une police de l'acte à une police du comportement. On a réveillé en elle sans doute des appétits qu'il ne faudrait pas regretter un jour. En tout cas, on travaille aujourd'hui à front renversé. Si tout cela encore était efficace, j'en doute. En tout cas, j'appelle à une évaluation de notre politique antiterroriste aujourd'hui. Mais il est clair qu'on applique aujourd'hui un modèle qui n'était pas au départ pensé pour nous.
Alors, vos contradicteurs vous diront que ceux qui commettent des attentats se réclament de l'islam et qu'il est donc légitime, normal et indispensable d'étudier comment passe-t-on de l'un à l'autre et comment passe-t-on à une radicalisation. Qu'est-ce que vous répondriez à cela?
Mais je me demande comment se fait-il qu'on leur ait accordé si facilement la faculté de parler au nom de l'islam. D'ailleurs, si on écoute les musulmans eux-mêmes disent que les terroristes ne sont pas musulmans. Donc, de quel droit, nous-mêmes, nous aurions à nous intéresser à cette radicalisation religieuse qui, tous les chercheurs et tous les sociologues s'accordent à dire qu'elle est minime dans les processus de passage à l'acte. Hein, dans les déterminants du passage à l'acte, la religion elle-même était quelque chose qui arrive après. La propension à la violence, en général, précède le passage par l'islam. Le passage par l'islam n'est qu'un habit, n'est qu'un masque que revêt le terroriste avant de passer à l'acte, puisqu'il fait de lui, en quelque sorte, l'ennemi le plus craint. C'est ce qui le rend le plus, puissant, hostile à la société. Et c'est sans doute pour ça qu'il le revêt à un moment donné. Mais voilà, je pense que ça nous affaiblit. Je crois qu'on a accordé des victoires aux terroristes bien trop facilement. Cette victoire-là, en tout cas, était importante. On a affaire à des terroristes qui nous disent « On veut que vous nous considériez comme l'avant-garde de l'islam, que vous nous considériez comme le glaive du Nouma fantasmé, tout ça, on leur a accordé ça. Je crois qu'on s'est affaibli en le faisant. Ils voulaient de nous une déclaration de guerre, ils voulaient être traités en égaux, justement parce que ils ne voulaient pas être traités en simples criminels. On leur a accordé ça. On leur accorde quasiment tout ce qu'ils nous demandent. Je crois qu'il y a un terrain sémantique à regagner et on ne doit pas, en tout cas, leur livrer bataille sur le terrain de bataille qu'ils nous ont désigné. On doit, nous, décider de notre doctrine souverainement par rapport à des gens qui nous affirment qu'ils sont musulmans. On peut en douter. En tout cas, on peut douter du fait que ce soit ça le déterminant du passage à l'acte.
Alors, vous êtes assez sévère avec le pouvoir politique. Notamment, vous dites que François Hollande, qui le 16 novembre 2015, devant le Parlement réuni en congrès, dit « La France est en guerre », accorde une importance excessive à nos ennemis. De même que lorsqu'Emmanuel Macron déclare « La France est en guerre » contre un nommé Iyad Ag-Ghali, eh bien, vous dites « Ce n'est pas faire injure à M. Iyad Ag-Ghali ». Par ailleurs, chef Touareg de son État, que d'interpréter comme un bel hommage le fait d'être considéré par la cinquième puissance mondiale comme un adversaire à sa hauteur.
Oui, je crois qu'il y a un problème de communication, certainement, dans la mesure où on a des effets déclaratoires qui sont souvent contre-productifs. Là encore, avec une telle politique de communication, je crains qu'on s'affaiblisse par rapport au terrorisme et que on devrait tout ce qui concourt à exceptionnaliser la lutte contre le terrorisme, à en faire un crime d'exception, je pense nous affaiblit et le renforce.
Et en fait, vous ne posez pas sur un débat moral, vous vous posez sur un terrain d'efficacité. Ce que vous dites, c'est que ce n'est pas immoral de faire cela, enfin cela également, mais ce n'est pas là le problème, c'est que c'est contre-productif par rapport à l'objectif même qui est recherché, à savoir combattre les terroristes.
Je crois que le débat a déjà été porté depuis de nombreuses années sur la manière dont cette nouvelle politique antiterroriste est attentatoire à un certain nombre de libertés individuelles et de libertés publiques. C'est un débat qui a été relativement bien documenté ces dernières années par les organisations de défense des droits de l'homme. Je ne vais pas y revenir. Je pense que il est bien plus intéressant et pertinent de porter le débat sur l'efficacité de cette lutte antiterroriste et qui, il me semble, souffre de toute cette exceptionnalisation du crime et ces déclarations un peu à l'emporte-pièce. Oui, je crois que le débat serait plus intéressant à porter par ce biais-là que plutôt que sur le biais des libertés qui... là encore, est bien mieux porté ailleurs que par moi.
Mais en même temps, dans le débat public, lorsque, et ça m'est arrivé à de nombreuses reprises, lorsque l'on minore non pas le défi terroriste, mais que l'on dit qu'il ne faut pas en faire l'alpha et l'oméga des questions de sécurité, qu'à trop en parler, on le nourrit au lieu de le combattre, on se fait très rapidement taxer de complices objectifs du terrorisme, d'idiots utiles du terrorisme ou d'islamo-gauchistes.
Oui, alors que ce serait plutôt l'inverse qu'il faudrait dire et que je crois que toutes ces déclarations, les partisans de cette nouvelle politique, dans la mesure où ils nous affaiblissent par rapport au terrorisme, prenez le débat par exemple ces dernières années sur le fait de comprendre, quand un Premier ministre par exemple à l'Assemblée ou dans d'autres cénacles dit que chercher à comprendre le terrorisme, c'est déjà l'excuser.
Il s'agit de Manuel Valls, pour ne pas le nommer.
À ce moment-là, ça revient à nous désarmer intellectuellement par rapport au terrorisme, alors que c'est tout l'inverse. Justement, chercher à le comprendre, c'est lutter. Et là, il y a une bataille de l'intelligence à mener. Il y a un réarmement intellectuel dont il faut nous doter, dont il faut doter nos services antiterroristes. Et dire ça, c'est presque se rendre complice, à la limite, du crime terroriste en refusant de le comprendre.
Donc vous inversez la charge de la preuve. Et effectivement, on ne voit pas pour d'autres phénomènes, si on dit comprendre le cancer, c'est ou comprendre la violence routière,
absolument,
c'est l'excuser,
absolument,
on ne dirait jamais cela. Et donc pourquoi cette exception par rapport au terrorisme alors?
Parce que le terrorisme justement a été, et cette nouvelle politique antiterroriste, et fait consensus aujourd'hui par un certain nombre, et tout ça est très très bien étudié en psychologie sociale, dans le fait de faire c'est-à-dire qu'à partir du moment où une nation est attaquée, on gomme nos différences, on surjoue un petit peu les valeurs qui sont censées être communes, et donc c'est ce que d'ailleurs le président de la République, lors de son fameux discours à la préfecture de police, a dit, c'est faire bloc. Faire bloc, c'est justement malheureusement faire ça, c'est-à-dire c'est refuser tout ce qui pourrait être un ferment de division entre nous. Donc on se rassemble sur des valeurs dont certaines sont tout à fait discutables, et ce faisant, on n'écoute pas en plus de ça les gens qui ne rentrent pas dans ces stéréotypes-là. Par exemple, le musulman qui condamne les attentats, toutes les organisations musulmanes condamnent les attentats, mais on ne les écoute pas, parce que ça ne rentre pas justement dans le stéréotype qui fait en sorte qu'on fait bloc. On fait bloc et voilà, tout ça, et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de débat. La peur a joué un rôle énorme, justement, dans cette cohésion, dans ce consensus mou qui concourt à la guerre contre le terrorisme.
Alors, vous parliez tout à l'heure de la politique de lutte contre la radicalisation. Vous écrivez ceci, c'est un concept erroné, importation irréfléchie de pratiques étrangères à notre tradition politique, recours précipité de faux experts par copinage, communication contre-productif et absence d'études d'impact en amont et d'évaluation en aval. La messe est dite.
C'est-à-dire que ça fait maintenant 5 ans, 6 ans. Je crois que le premier plan d'action de lutte contre la radicalisation remonte à 2013 et avait été édicté et proposé par le SGDSN. On a 6 ans d'application. Je crois que le moins qu'on puisse faire aujourd'hui, ça serait d'en faire l'évaluation et de voir en quelque sorte, d'un côté, ce que cette lutte contre la radicalisation a pu nous apporter. Il y a eu des choses qui ont été faites. Par exemple, le fait d'avoir identifié 20 000 noms, 20 000 individus qui seraient éventuellement porteurs de menaces, c'est peut-être un acquis. Il faut voir après aussi comment il peut y avoir des effets un peu pervers. Mais voilà, je crois qu'il y a eu des choses qui ont été faites, mais on devrait désormais évaluer les effets pervers que cette lutte contre la radicalisation nous a apportés en termes de cohésion nationale, par exemple. Je crois que dès qu'on a commencé à se lancer dans cette lutte-là, on a clairement signifié à 5% de la population française que sa présence sur notre sol n'allait pas de soi. On a signifié à 20% de la population mondiale, les musulmans dans le monde, que leur compatibilité avec l'Occident pouvait être questionnée. Et ça, c'est grave. Les conséquences à long terme sont immenses.
Mais quand vous évoquiez cela avec vos anciens collègues, j'imagine que vous avez gardé des contacts, qu'est-ce qu'ils vous répondent?
Dans les services, c'est très compliqué. On a pour prendre les services antiterroristes français, ce sont des gens extrêmement professionnels, tout dévoués à leur tâche. Mais il n'y a pas ce genre de débat. Comment dire, ce sont des services qui sont relativement loyaux au pouvoir politique et tout à fait investis dans leur mission. Ils croulent sous le travail. Ils font ce qu'ils peuvent, mais il n'y a pas de réflexion, je dirais, théorique sur ces sujets-là.
Et puis vous êtes très sévère avec, je dirais non pas les experts, mais les faux experts qui peuplent les plateaux télévisés. Est-ce que vous-même vous êtes souvent sollicité par les médias? Et qu'est-ce que vous pensez de la façon dont les chaînes d'information organisent les débats sur le terrorisme?
Alors, en France, il y a toute une école de pensée. Qui désormais a voix au chapitre, mais là aussi, depuis une vingtaine d'années, on pourrait très bien documenter ça, dans toute cette nouvelle criminologie à la française, qui apporte une espèce de prêt-à-penser, de pensée clé en main sur ces sujets-là, et qui truste en quelque sorte les plateaux, qui concourt à l'uniformisation de la pensée sur le sujet. Il n'y a pas de pensée critique sur le terrorisme. Là aussi, c'est très compliqué, et ni sur la lutte antiterroriste, parce que ce consensus qui est bâti de valeurs morales, fait bloc et est très difficile à percer, parce qu'on considère que plus on aboie contre le terrorisme, plus on est légitime, alors qu'en fait, plus on s'affaiblit par rapport à lui.
Mais en même temps, vous parlez de sociologues qui ont documenté, enfin vous appuyez vous-même sur les travaux de sociologues pour fournir ce diagnostic. Donc tout le monde n'est pas dans la course à l'échalote à faire de la surenchère contre le terrorisme.
Alors après, il y a un problème de format par rapport aux médias audiovisuels en particulier, parce que le format qu'ils proposent à la parole critique n'est pas suffisamment long, n'est pas pour faire des développements. Et je connais beaucoup de collègues sociologues qui refusent d'aller sur les plateaux, estimant que leur pensée y sera forcément caricaturée. Voilà, et
Oui,
donc
mais est-ce que c'est pas un piège et est-ce qu'on laisse pas la mauvaise monnaie
certainement.
prospérer
Certainement.
si la bonne monnaie
Bien
refuse
sûr.
de se compromettre dans les
Oui,
médias?
bien sûr. Sans doute, il faudrait inverser le courant, mais c'est compliqué. Oui.
Mais est-ce que vous voyez beaucoup de gens qui sont carrément des imposteurs qui viennent sur les plateaux télévisés sans parler de ce qu'ils connaissent?
Il y a des gens qui ont des choses à vendre. Ce que les sociologues appellent les marchands de peur en France et qui sont extrêmement nombreux et qui, on a affaire là à une sorte de confrérie qui va de substrat un peu théorique. Donc cette nouvelle criminologie, entre guillemets, dont je parlais tout à l'heure, jusqu'aux sociétés de conseil en sécurité. Et donc on a affaire quand même à un système relativement cohérent sur lequel s'appuient d'ailleurs les politiques. politique depuis une vingtaine d'années, de tous bords confondus. Là, c'est vrai qu'il y a une chape de plomb un peu théorique qu'il faudrait briser pour arriver à un vrai débat démocratique sur la lutte antiterroriste.
Vous êtes également sévère avec le parquet antiterroriste et vous dites que le juge, finalement, s'arroge des droits et définit une politique sans en connaître tous les éléments.
Oh, c'est-à-dire que je reviens un petit peu sur la question de la spécialisation des magistrats. Je suis intervenu dernièrement devant le syndicat de la magistrature qui était étonné qu'on puisse encore se poser la question de la spécialisation des magistrats sur le terrorisme parce que comme si c'était un fait acquis sur lequel on ne pourrait pas revenir. Eux-mêmes souhaitent d'ailleurs questionner le sujet. Je crois que quand on a commencé après 82, donc 82, suppression de la Cour de sûreté de l'État, et dès 86, en fait, on spécialise des magistrats sur le sujet. Je crois que voilà, on a créé aussi un espèce de proconsul de la lutte antiterroriste qui souhaite incarner. Il y a eu des dérives dans l'incarnation de la justice antiterroriste ces dernières années qui n'ont pas.
C'est quoi l'ego, le goût de la vedettarisation ?
Certainement, bien sûr, et qui n'ont pas apporté beaucoup de bienfaits dans la lutte antiterroriste, sans doute.
Et puis en conclusion, en fait, vous mettez en fait en cause le soft power et quelque part vous écrivez que la concentration que l'on met ou la priorité accordée à la lutte antiterroriste, eh bien, en fait, fait passer sous les radars de l'information des défis qui, pour notre sécurité, sont bien plus importants, notamment la déstabilisation économique, écologique, sanitaire. Est-ce que vous pensez que la façon dont on évoque la lutte contre le terrorisme dans le débat public nous fait échapper une grande partie de problèmes qui sont bien plus importants ?
Bien sûr, parce que parler de la lutte antiterroriste, ça n'est jamais parlé que de ça. À partir du moment où on priorise ce type de lutte, forcément, ça se fait au détriment d'autres menaces. Et que, en tout cas, là aussi, il faudrait que ce soit un débat démocratique dont le Parlement devrait se saisir. Est-ce que le terrorisme représente justement cette menace mortelle pour notre pays ou notre civilisation dont on nous parle? Et n'y a-t-il pas des menaces sans doute plus insidieuses et plus dangereuses?
Et donc, vous concluez, le terrorisme cultive ce curieux paradoxe d'occuper finalement une place marginale dans le paysage des violences sociales, mais une place à part dans la hiérarchie des dangers.
Oui, je crois qu'il y a effectivement ce paradoxe. Le terrorisme bénéficie d'une visibilité énorme aujourd'hui dans le débat public, à tel point qu'il pourrait être là aussi, par un certain nombre de régimes sans scrupules, utilisé comme une forme de dissuasion civile. C'est le mot de Paul Virilio, par exemple, quand il dit que la lutte antiterroriste, il faut forcément y adhérer parce que le fait de critiquer justement cette guerre contre le terrorisme pourrait nous faire apparaître comme des complices de ce combat et que les luttes contre les injustices sociales, par exemple, par rapport à la lutte contre le terrorisme, pourraient désormais apparaître comme déplacées, hors sujet, voire presque complices, en quelque sorte, de la lutte antiterroriste. Et on est arrivé à ce débat-là, surtout aujourd'hui, dans ce climat un peu particulier que vit la France. La lutte contre le terrorisme, ce n'est jamais innocent, je veux dire, en quelque sorte, dis-moi comment tu luttes contre le terrorisme et je te dirai qui tu es. Ça révèle souvent ce qu'est un régime et ce qu'un régime a dans le ventre, en quelque sorte. Et ça, je crois que c'est important. On ne perd jamais de temps à discuter, à réfléchir autour du sujet de la lutte contre le terrorisme, parce que c'est tellement régalien, tellement politique, que ça montre souvent le vrai visage d'un État.
Merci François Tulier, c'est justement réfléchir sur le terrorisme, c'est justement ce à quoi invite votre livre, La Révolution antiterroriste qui vient de paraître aux éditions Temps Présent.